Nathalie Arthaud est avec nous, entre autres, pour répondre à la chronique de David Xavier Weiss. Nathalie Arthaud, justement sur la réforme du statut d'auto-entrepreneur, hein, le plafond a baissé à 19 000 euros de chiffre d'affaires pour les services. Est-ce que c'est le bon juste milieu ou alors est-ce que, comme l'a soulevé David Xavier Weiss, c'est le risque d'avoir plus de blagues et d'avoir un pouvoir d'achat moindre?
D'abord, je tiens à dire qu'il y a en réalité très très peu d'auto-entrepreneurs qui vivent de cette activité-là. Hein, il faut quand même pas se leurrer. Alors, on nous annonce effectivement des chiffres astronomiques, mais en réalité, il y en a quoi, la moitié.
862 000 auto-entrepreneurs en France.
Qui réalisent la moitié, qui font en fait un chiffre d'affaires, qui déclarent un chiffre d'affaires, et il y en a quelques milliers qui arrivent à en vivre. Donc, c'est une activité faute d'avoir un vrai emploi. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que c'est des gens qui sont au chômage et qui essayent effectivement de gagner 3 francs 6 sous.
Mais c'est peut-être voilà. Déjà mieux que rien. Alors,
le problème dans le pays, c'est le problème du chômage. C'est le problème des licenciements. C'est le problème du chômage de masse avec lequel on s'habitue. Hein. Ça fait, parce que ce chômage de masse, il existe depuis les années 1980. Ça fait maintenant 30 ans, 35 ans.
Deux générations.
Et on voit deux générations. Bon, moi,
c'est
effectivement.
C'est pas en portant un coup statut d'auto-entrepreneur qu'on va résorber le problème du chômage en même temps.
Non, mais je crois que le problème, il est quand même à prendre à ce niveau-là. Parce que vous savez, aller dans tous les pays du tiers-monde, dans tous les pays pauvres, des auto-entrepreneurs, il y en a des millions. Hein, des petits gosses qui vendent des briquets, qui vendent des boîtes d'allumettes, qui vendent des mouchoirs. Ça, c'est sûr. Parce que c'est la misère. Or, moi, je pense que dans notre société quand même riche, il y aurait de quoi, effectivement, à ce que tout le monde ait un véritable emploi, un véritable salaire, puisse faire des projets et un avenir.
Vous craignez pas justement qu'on risque de pousser certains auto-entrepreneurs à ne plus déclarer leur activité ?
Écoutez, moi, de toute façon, je ne vais pas juger ceux qui essayent, hein, de toutes les façons de vivre comme ils peuvent. Hein. Ça, c'est. Mais encore une fois, voilà, c'est moi, ce qui me révolte, c'est effectivement de se retrouver dans cette société sans rien, sans possibilité de gagner son pain. Voilà, et quand on est travailleur, quand on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et qu'on est obligé d'aller vendre sa force de travail pour gagner un salaire, eh ben écoutez, dans cette société, voilà, on se retrouve la plupart du temps sans rien. Donc encore une fois, c'est ça qu'il faut, il faudrait prendre le mal à la racine, je crois.
Nathalie Arthaud, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Vendredi dernier, le rapport Moreau sur les retraites. Alors la volonté du gouvernement est évidemment de réformer les retraites afin de pérenniser le système. Est-ce qu'au fond, c'est pas tout de même courageux et responsable vis-à-vis des prochaines générations, Nathalie Arthaud?
Mais c'est un racket, voilà, un nouveau racket, un nouveau vol sur les pensions. C'est révoltant, voilà, c'est scandaleux. Hein. Effectivement, ça fait déjà 20 ans que de réforme en retraite, eh bien les pensions elles diminuent et le nombre de retraités pauvres en dessous du seuil de pauvreté augmente. Hein. Et c'est cela qui nous attend. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas l'accepter. C'est une nouvelle attaque contre les retraites. Et effectivement, la même que celle de Sarkozy. On a la gauche au gouvernement, mais elle fait la même politique, une politique effectivement de droite, hein, où il faut toujours et encore en faire baver aux travailleurs.
Vous regrettez Sarkozy, non, quand même pas.
Sûrement pas, mais on peut constater qu'en réalité, c'est les mêmes qui tirent les fils.
Sur la question de la perte des droits, cette semaine, deux grèves dans les transports en commun, une à Air France, l'autre à la SNCF. Est-ce que vous comprenez que ça agace un certain nombre de Français qui essayent d'aller travailler, de vivre normalement ces grèves?
Bah ça, évidemment, je comprends, et en même temps j'ai envie de leur dire, mais écoutez, si les transports en commun se dégradent, s'il y a autant de pannes, s'il y a autant de retards, c'est aussi des problèmes justement de personnel, c'est aussi parce qu'on cherche à rendre tous ces services publics toujours plus rentables,
aussi.
À faire des économies.
Il y a eu un problème d'investissement dans les transports en commun.
On ne fait plus d'investissement, mais tout ça, c'est qui en subit les conséquences? C'est effectivement les usagers, et c'est aussi les travailleurs de ces secteurs-là.
Oui, mais une autre façon de faire la grève, ce serait pas par exemple, d'offrir la gratuité dans les transports. Pas de contrôleurs, grève des guichetiers, ce serait aussi une forme plus acceptable pour ceux qui veulent travailler et qui ne seraient pas pénalisés.
La seule forme pour les travailleurs, en fait, de se défendre, de faire valoir leurs droits, c'est la grève. Et vous pourrez tourner le problème dans tous les sens, hein, mais tous les progrès et en tout cas à chaque fois qu'on a réussi à stopper des attaques, c'est lorsqu'il y a eu des réactions collectives.
Mais reconnaissez que c'est plus facile de faire la grève à la
RATP
ou à la SNCF que de faire la grève dans une entreprise privée ou dans une petite PME.
Non, alors là non, ce n'est pas plus facile.
Dans les rangs des manifs, il y a plus de fonctionnaires,
Des sacrifices, parce que voilà, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils sont payés quand ils font grève? Vous croyez que c'est pas un sacrifice
Jamais, vous allez nous dire qu'il n'y a jamais eu de négociation ensuite avec les syndicats de manière à négocier les journées de grève à ce qu'elles soient payées?
Mais moi, je trouve que c'est normal de négocier et d'essayer d'arracher effectivement le paiement des jours de grève, parce que c'est une situation dans laquelle l'employeur nous a mis et c'est à lui aussi d'en prendre la responsabilité.
Donc les salariés sont bien payés pour les jours de grève, ça arrive.
Pas du tout. Vous êtes en train de dire un mensonge. Vous êtes en train de dire à l'antenne que les salariés de la fonction publique sont payés.
Puisque c'est négocié.
Ce n'est pas vrai.
Ça n'a jamais été négocié avec les syndicats.
Mais c'est négocié au coup le coup, coup par coup, quand il y a des grèves, qui sont longues, quand il y a le rapport de force, c'est normal de chercher à tout négocier et de chercher à ce que l'employeur, assume ses gestes. Mais les salariés qui sont en grève aujourd'hui, je suis désolée, c'est des sacrifices pour eux. Hein, c'est un jour de paye en moins, donc il faut pas raconter n'importe quoi.
Nathalie Arthaud, vous connaissez la cause de la grève de la SNCF, j'imagine. Les cheminots craignent l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence et ils ont notamment peur de perdre un certain nombre de leurs avantages.
Bah oui, et ils ont raison. Et ils ont raison, encore une fois, moi je ne vois pas pourquoi on accepterait. Au nom de quoi? Au nom de quoi cette concurrence?
La libéralisation du marché, c'est une mauvaise chose.
Mais écoutez, cette concurrence là, on n'arrête pas de nous expliquer que la concurrence, c'est très bien, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Allez voir comment ça marche les chemins de fer en Grande-Bretagne.
Mais si la SNCF est une belle entreprise, une grande entreprise en qui on peut avoir confiance...
Qui est en train d'être démantelée, qui est en train d'être découpée en petits morceaux, qui est en train effectivement...
Est-ce qu'elle ne peut pas elle aussi aller chercher des marchés en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Grande-Bretagne? Elle aussi, il n'y a pas... Enfin, la libéralisation n'est pas seulement subie, elle peut être aussi choisie, voulue et même active pour le bien de la SNCF.
Écoutez, la SNCF, elle veut effectivement se transformer en une entreprise pour faire de l'argent, pour être rentable, etc.
Et elle est rentable aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous attendez vous de la SNCF? Qu'est-ce que j'attends moi de la SNCF? C'est qu'elle me transporte, qu'elle développe les transports en commun, que ça soit un service rendu pour des millions de gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports en commun pour aller bosser. C'est ça qu'on attend. C'est pas forcément qu'elle fasse qu'elle accumule des bénéfices extravagants. Il y en a marre quand même de.
Et moi, je pense pendant des années, c'est contribuable qui renfloue les caisses de la SNCF.
Il y a un certain nombre de services publics. Moi, je pense que les transports publics, ça en fait partie, que les hôpitaux, que l'éducation nationale, ça doit être d'abord et avant tout un service rendu au public. Et qu'il faut pas rechercher la rentabilité. Parce que tout ça, ça fait partie de nos conditions de vie de tous les jours, au quotidien. Et il faut arrêter, en faisant croire que c'est parce qu'elle fera plus de profit que ça ira mieux pour les usagers. C'est pas vrai. Nathalie et je dirais même que c'est le contraire.
Nathalie Arthaud, vous restez avec nous. On fait une courte pause. On se retrouve tout de suite après pour la suite du Brunch Politique. Sud Radio.
Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin.
Toujours avec Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud, la mort de Clément Méric. Je voudrais revenir dessus, ça fait maintenant 15 jours, mais on vous a peu entendu parler sur le sujet. Alors je cite simplement un vigile dans cette affaire, le vigile qui est considéré comme le témoin principal par les policiers. Il déclare, je cite, « Un membre du groupe antifasciste aurait poussé Clément Méric à se battre, tandis que les militants d'extrême droite tentaient d'éviter l'affrontement. »
Alors, on m'a peu entendu parce qu'on m'a peu interviewé, tout simplement. Mais je suis intervenue, j'ai fait un communiqué. À chaque fois, j'ai essayé de prendre la parole, effectivement, pour dire toute ma révolte face à ce que je considère un assassinat politique. Voilà.
Un assassinat, c'est un homicide avec préméditation.
Oui, mais vous savez, quand on cogne comme ça, quand on s'entraîne hein, à cogner quand on est armé, quand on en fait son mode de militantisme, eh bien on se prépare, oui, et on s'expose à tuer, voilà. Et on sait que ces groupes-là, c'est pas la première fois, vous savez. Alors d'accord, il faut remonter à 1995, c'était Brahim Bouharam qui avait été jeté dans la Seine en marge d'un défilé du 1er mai de Marine Le Pen et qui s'était noyé, qui était mort. Hein. Il y a moins longtemps, c'était un jeune Chilien à Toulouse, il s'est retrouvé hémiplégique. Les mêmes attaques, les mêmes groupes, leur tort à tout cela, de pas avoir la tête qui revient, de pas avoir la bonne tête, la bonne couleur de peau, de pas avoir la bonne origine, de pas avoir les bonnes idées.
Justement, selon le témoin principal, hein, que j'ai cité, ceux qui ont entraîné cet affrontement, c'est avant tout les membres du groupe antifasciste qui ont encouragé Clément Méricard.
Écoutez, je sais bien que depuis le début, on essaye de mettre dos à dos, hein,
extrême gauche, extrême droite. Voilà. Est-ce que Mélenchon n'en a pas trop fait,
mais
par exemple?
Pouvez-vous me dire quel groupe d'extrême gauche aurait commis comme ça, aurait tué? Dites-moi, quelles victimes ont-ils fait?
Non mais là on...
Moi, je peux vous faire la liste, effectivement, d'un certain nombre de victimes. Je peux vous parler à Lyon de toutes les agressions qu'il y a de couples mixtes. Hein, le dernier en date, c'est un couple qui rentrait chez eux, dont la jeune fille était chinoise. Eh bien, ils ont été attaqués, une dent cassée, un poignet cassé. C'est ça ce qui se passe aussi dans les rues de Lyon.
Et des actes antisémites en France. C'est vrai. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas une récupération également politique de la part de Jean-Luc Mélenchon, notamment?
Non, il y a. Alors d'abord, c'est un fait politique, et c'est tout à fait normal de placer le problème sur un terrain politique. Et par ailleurs, effectivement, c'est
un affrontement entre deux jeunes qui a très mal tourné, malheureusement.
C'est pas un affrontement de plus. C'est un fait d'autant plus grave que ça se situe dans une période où effectivement on voit ces groupes-là agir de plus en plus, où ils ont agi en marge des manifestations contre le mariage homosexuel, où on les a vus faire de la surenchère, où on les a vus s'afficher, où on les a vus arrogants, où on les a vus vindicatifs. Donc effectivement, c'est tout un climat qui est aujourd'hui à dénoncer. Et moi, je crois qu'il y a effectivement des liens très forts entre tous ces groupes-là, hein, ce monsieur Serge Ayoub de Jeunesse Révolutionnaire et le Front National. Et je crois que quand on voit le Front National se renforcer, eh bien ces groupes-là aussi se sentent renforcés, confortés. Et tout ça, c'est effectivement très dangereux pour tout le monde. Et à commencer pour les travailleurs, parce que ces gens-là, ils sont anti-ouvriers, ils sont anti-syndicat, anti-grève.
Nathalie Arthaud, vous ne pensez pas qu'il aurait fallu dissoudre tous les groupuscules d'extrême droite comme ceux d'extrême gauche qui ont pu jouer un rôle dans cette affaire? Ce groupe antifasciste, qui se prétend antifasciste, qui aurait poussé Clément Méric à aller se battre, et sans lequel peut-être serait-il encore
avec
en vie?
Vous aurait poussé je ne sais trop quoi, là,
c'est la version, c'est Clément Méric. Est-ce qu'il est normal que ce groupe-là ne soit pas dissous?
Il y a un mort, c'est Clément Méric. Alors vos suppositions, elles ne valent rien. Hein? Voilà, il y a un mort, c'est Clément Méric, il avait 19 ans, il était effectivement antifasciste, heureusement qu'il y a des gens qui se battent, y compris sur ce terrain-là. Et puis voilà, moi je me souviens même plus du début de votre question.
Non, simplement savoir s'il aurait pas fallu
dissolution. Vous disiez dissolution. Bon, d'abord, moi, la dissolution, on le sait pertinemment.
Ça se reconstitue facilement,
mais bien sûr,
de façon vicieuse ou officielle.
On peut dissoudre n'importe qui, le lendemain, il se réorganise sous un autre nom. Donc ça, c'est je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie d'utiliser tout ce qui peut y avoir à notre disposition, mais il faut les combattre, ces idées, et on ne peut les combattre que si on combat le terreau sur lequel ces idées se développent. Et le terreau sur lequel ces idées se développent, c'est d'abord et avant tout effectivement la crise, le nombre de chômage, la désespérance, la désorientation politique. C'est le terreau des préjugés, c'est le terreau du racisme, de toutes ces idées que l'on voit ressurgir effectivement à la faveur de la crise.
Nathalie Arthaud, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Alors, j'imagine que vous suivez les sondages actuellement et notamment les sondages pour les prochaines élections européennes.
Non.
Un sondage, en tout cas, paru cette semaine, YouGov pour Huffington Post et iTélé. 19% pour l'UMP, 18% pour le Front National et 15% pour le Parti Socialiste. Alors, on sait bien que les européennes sont des proportionnelles, mais de voir le Front National au coude à coude avec l'UMP, ça vous inquiète?
Oui, ça me révolte. Et ça me révolte. C'est vrai que moi, je combats évidemment les idées du Front National. Je pense que tous ceux qui sont écœurés par la politique qui est menée par le gouvernement socialiste et puis qui était aussi écœurés par la politique de Sarkozy, hein, je les comprends. Mais tous ceux qui croient que Marine Le Pen fera une autre politique si elle arrive au pouvoir, se trompe. Et y compris voter pour Le Pen, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que Marine Le Pen, elle est pour un régime autoritaire, pour un régime dictatorial. Et on le voit justement avec tous ces groupes-là qui gravitent autour du Front National, qui s'agitent dans l'ombre du Front National. Et au pouvoir, en fait, elle fera une politique favorable à la bourgeoisie, aux affairistes, hein, aux grandes entreprises, aux grands groupes. Et ce serait une politique contre les travailleurs.
Et finalement, vous dites Marine Le Pen, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce que recherchent les électeurs? Quand on voit François Hollande qui a du mal à prendre des décisions, quand on voit Jean-Marc Ayrault qui est très effacé, c'est pas un petit peu le reproche qui est adressé au gouvernement aujourd'hui?
Je ne crois pas que ce soit le manque d'autorité. Non, le problème, c'est effectivement, est-ce qu'on est ou pas déterminé à combattre aujourd'hui ce grand patronat qui est en train de saccager l'économie, qui est en train de licencier à tour de bras, qui est en train de faire exploser le chômage? C'est ça le problème. Est-ce qu'on on empêche ces gens-là de nuire? Est-ce qu'on empêche Peugeot Citroën? Est-ce qu'on empêche Doux? Est-ce qu'on empêche Virgin? Est-ce qu'on empêche Michelin?
Justement.
De rajouter des chômeurs aux chômeurs, c'est ça le problème aujourd'hui dans toutes les régions. Écoutez, on voit les entreprises se faire. Alors le problème, c'est
effectivement l'inaction du gouvernement en la matière.
L'inaction du gouvernement socialiste de droite et aussi Le Pen, hein, parce que Le Pen, là, elle fera rien contre ces gens-là. Hein. Elle, son problème, c'est avec le protectionnisme, c'est de les aider à faire de belles affaires. Elle est sur le même terrain qu'eux. Hein. Il faut que l'économie et que les affaires, elles marchent pour ces gens-là. Nous disons non. Ça, c'est pas notre problème à nous. Nous, notre problème, c'est les travailleurs. Et notre problème, c'est que effectivement, les entreprises et que les profits réalisés dans les entreprises, elles servent d'abord aux emplois, aux salaires, qu'elles servent aux conditions de travail, qu'elles servent à soulager justement ceux qui triment les jours. Donc nous, notre point de vue, c'est les travailleurs et c'est pas les problèmes des capitalistes et des affairistes.
Nathalie Arthaud, toujours avec nous sur Sud Radio. Vous avez évoqué l'entreprise Michelin, le fabricant de pneus prévoit la suppression de 726 postes très exactement dans son usine de Jouy-les-Tours. Vous avez évoqué par ailleurs dans une autre interview la rapacité de ce fabricant. Arnaud Montebourg, est-il complice selon vous?
Bien sûr, il est complice, comme la droite l'était, ils sont dans le camp de ce grand patronat, de cette grande bourgeoisie, et ils sont complices effectivement de la rapacité patronale. Parce qu'écoutez, quand même, un groupe qui depuis 5 ans fait plus d'1,5 milliard de bénéfices, on peut pas lui interdire là de ces suppressions d'emplois. Parce que, et j'appelle ça des licenciements, parce qu'il y en a marre aussi de jouer avec les mots, hein. À chaque fois, on nous explique qu'ils vont être classés. Oui, mais attendez.
Parce que justement.
Il y a 5 millions de personnes qui attendent d'être classées à Pôle emploi.
Hein. Alors. Parce que Michelin s'est engagé à ce qu'aucun salarié ne se retrouve à Pôle emploi.
Oui. PSA aussi, Moulinex aussi, Molex aussi, et en réalité les gens, ils sont à Pôle emploi. Les gens, ils sont au RSA aujourd'hui, après des années et des années. Donc tout ça, hein, c'est aussi des emplois qui ne sont pas trouvés pour les jeunes, qui arrivent sur le marché du travail, hein, à Jouy-les-Tours. Donc non, tout ça, ce sont des licenciements. Quand on renvoie des intérimaires, c'est un licenciement aussi. C'est un licenciement. Une suppression d'emploi, c'est un licenciement, parce que justement, c'est un chômeur qui ne trouvera pas d'emploi. Donc ça, moi, dans la période actuelle, j'appelle ça un crime social. C'est un crime social parce que d'abord, celui qui se retrouve sur le carreau, eh bien, il se retrouve plongé dans une longue période de chômage et donc dans la misère. C'est tous ces projets qui sont bouleversés et qui sont mis par terre. Et puis c'est un crime social à l'échelle de la société, parce que la société, elle en crève du chômage, parce que ça veut dire les incivilités, parce que ça veut dire l'individualisme, parce que ça veut dire que les liens sociaux ils se délitent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'on nous dit qu'on peut plus payer pour la santé, pour les services publics. Bon, c'est toute la société qui en crève de ce chômage, donc il faut arrêter ça.
Merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Merci à vous.
Je vous remercie.
Le brunch politique Sud Radio.